Comment bien mettre ses bouchons d'oreilles ? Comment bien mettre ses bouchons d'oreilles ? Roulez votre bouchon entre le pouce et l'index. Tirez l'oreille vers le haut. Insérez le bouchon. Maintenez le bouchon. Quelle que soit la musique que vous écoutez, préservez votre audition. Ceci est un message de l'INPES. Comment bien mettre ses bouchons d'oreilles ? Roulez votre bouchon entre le pouce et l'index. Tirez l'oreille vers le haut. Insérez le bouchon dans votre oreille. Maintenez le bouchon du bout de l'index. Quelle que soit la musique que vous écoutez, préservez votre audition. Ceci est un message de l'INPES. Le décret-son, c'est en fait le décret numéro 2017-1244 du 7 août 2017. Il porte sur la protection de l'audition du public dans des lieux clos ou ouverts, ouverts au public ou recevant du public, et dans lesquels sont diffusés des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés. Son application entraîne d'importantes obligations pour la personne responsable du public. Sans arrêté d'application, ce décret était difficilement applicable. L'arrêté est arrivé le 17 avril 2023. Dans ce décret, il est question de santé et d'environnement. Santé, c'est-à-dire la protection du public exposé à des niveaux sonores élevés. Et protection, c'est la protection du voisinage potentiellement exposé aux nuisances sonores. Le décret vise aussi l'abaissement des niveaux sonores. À ne dépasser à aucun moment et en aucun endroit accessible au public. À mieux prendre en compte les sons des basses et des très basses fréquences qui sont souvent présents à de forts niveaux dans les musiques actuelles et par la fixation d'un seuil en décibels C. À assurer une protection renforcée pour les enfants vis-à-vis des niveaux sonores élevés par la fixation de seuils spécifiques aux lieux destinés aux enfants de moins de 7 ans. À protéger de manière égale les riverains contre les éventuelles nuisances sonores d'un lieu diffusant des sons amplifiés, que leur logement soit mitoyen ou non du lieu. À favoriser la prise en compte des enjeux de protection de l'audition du public et de préservation de la tranquillité du voisinage dans différents lieux diffusant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés qui n'étaient pas concernés par la réglementation précédente, c'est-à-dire les restaurants, commerces ou encore les festivals. Le renforcement de l'information et de la prévention du public dans les lieux de diffusion de sons amplifiés par la diffusion de messages de prévention, l'affichage en continu des niveaux sonores auxquels le public est exposé, la mise à disposition gratuitement de protections auditives adaptées au public accueilli, la création de zones de repos auditif ou à défaut de périodes de repos auditif. Pourquoi ça reste compliqué ce décret-son ? Eh bien, pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'avoir une invitée experte qui représente ici Agisson.
Radio Campus,
ça va être des activités gratuites tout au long d'une soirée avec par exemple des massages, des bains sonores, un bar zen, une dégustation de chocolat en pleine conscience.
Radio Campus Tour.
C'est quoi un bain sonore ?
Excellente question.
On se trempe dans la musique,
Donc je pense que c'est quelque chose d'assez relaxant et détendant. Et on se retrouve à plusieurs étudiants dans une même séance, dans une salle. Et,
Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Je n'y ai pas été, mais...
RadioCampusTour.com.
Bonjour Angélique Duchemin, donc vous êtes directrice d'Agisson. Peut-être que pour commencer, vous voudriez nous présenter Agisson.
Oui, bonjour Mélissa. Alors Agisson est une association qui a été créée par les professionnels du spectacle vivant musical, donc syndicats d'employeurs, de salariés, fédérations de salles, réseaux régionaux, qui se sont mobilisés autour d'une structure pour résoudre les problèmes liés à la gestion sonore et aux risques auditifs liés à l'écoute et la pratique de la musique, et notamment en réponse à un décret limitant les niveaux sonores qui est paru en 1998. Donc ça fait 25 ans que l'association existe.
Donc, c'est-à-dire que cette association, elle regroupe par exemple d'autres fédérations comme la Fédélima, comme la Fracama.
Exactement, exactement. Nous, on est vraiment une association regroupant des personnes morales qui sont elles-mêmes déjà fédératrices sur les territoires de musique actuelle, de tous les réseaux régionaux, on va dire, de musiques amplifiées, et également des fédérations de salles ou effectivement des syndicats tels que le SMA ou encore Écoscène, pour ne citer qu'eux, qui sont des représentants, des acteurs de la filière.
Mais vous, vous êtes vraiment spécialiste, disons, de cette idée de son, de rapport au son.
C'est ça, vraiment, on est dédié à ce sujet. Donc, ça passe par différents pôles d'activité, hein, puisqu'on est aussi bien sur tout un pôle d'éducation sonore, donc vraiment être dans, on va dire, la pédagogie vis-à-vis des plus jeunes pour que ce soit des spectateurs avertis d'une part, mais qu'ils aient une écoute responsable dans leur quotidien. Et aussi parce que ce sont nos futurs professionnels, donc voilà, on est dans cet aspect-là. Aussi bien, on va être sur, effectivement, accompagner les professionnels dans l'application des réglementations autour de ce sujet, et donc les aider avec des outils pertinents qui correspondent à notre secteur et à nos pratiques, qu'elles soient techniques ou artistiques.
C'est une équipe de combien de personnes, Agissons ?
Alors, actuellement, on est retombé à une équipe de 2 personnes, puisque, comme pour beaucoup de structures, on a subi des revers budgétaires et des baisses de subventions, notamment, qui font qu'aujourd'hui, on se réduit à 2 personnes.
Et donc, vous, en tant que directrice, et qui d'autre ?
Et après, on a donc une chargée des partenariats et de la communication, enfin une responsable des partenariats et de la communication, la personne de Marion Goujat.
Il me semble que vous avez aussi un comité scientifique ?
Exactement, au sein d'Agisson, on a créé un comité scientifique qui réunit d'une part les représentants du secteur via les adhérents d'Agisson, mais également on invite les ministères concernés par ce sujet, on invite des structures également externes qui vont pouvoir nous accompagner ou être force de proposition sur des sujets comme le centre d'information et de documentation sur le bruit par exemple, mais on invite également des experts acousticiens, sociologues, ethnologues, ORL, etc., selon les thématiques traitées.
Et quel est votre poids auprès d'élus ?
Alors, auprès des élus en direct, pas forcément, puisqu'on essaie de faire en sorte que ce soit nos relais régionaux, puisqu'on travaille aussi avec nos relais régionaux, mais aussi tous les adhérents d'Agisson, hein, que sont les syndicats, qui soient plus en lien avec les élus. Cependant, nous, on est vraiment une interface, par contre, avec les pouvoirs publics au niveau de l'État, puisque la réglementation dont je parle concerne 3 ministères, la culture, l'environnement et la santé. Et nous, on est vraiment dans cette interface de discussion avec ces 3 ministères pour représenter le secteur, représenter nos pratiques, les potentielles difficultés, mais aussi être force de proposition en termes d'amélioration de cette réglementation en phase avec nos pratiques.
Alors pour en venir justement à ce fameux décret son, est-ce que vous voudriez nous le présenter et rappeler en quoi il consiste ?
Alors en fait, c'est un texte très louable, hein, en termes de santé publique. L'objectif pour le législateur est vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment une convergence entre la pratique de nos métiers, mais surtout qu'on protège nos publics et également l'environnement et notamment les riverains des événements, des nuisances sonores et en tout cas pour les riverains et des risques auditifs pour le public. Donc, au départ, ça part vraiment d'une intention louable. Malheureusement, comme beaucoup de textes réglementaires, il n'y a pas eu d'étude de faisabilité. Il y a des aspects de ce texte qui nous ont semblé immédiatement assez compliqués. Et force a été de constater, à force d'expériences, de tests en grandeur nature, etc., que certaines prescriptions de la réglementation ne sont pas viables finalement et ne peuvent pas tenir. Et notamment, c'est le principe des émergences pour les lieux de plein air qui n'est absolument pas tenable. On a beau réfléchir et étudier les choses dans tous les sens, on n'arrive pas à tenir ce principe d'émergence.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'année 98, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune modification, évolution depuis cette date ?
Alors si, justement, on a eu un premier texte en 98, effectivement, et en 2017, on a eu un nouveau texte donc, qui a invalidé, on va dire, le premier texte pour le remplacer. Et donc, il est un peu plus drastique. On a des valeurs, on a deux valeurs réglementaires. On a un 102 dBA et un 118 dBC. Donc ça, c'est les valeurs qui doivent être respectées pour protéger le public au sein des salles de concert ou des festivals. Donc ça, ce sont des choses, déjà des niveaux qui sont difficilement compatibles, mais à force de travail, notamment avec les constructeurs de matériel, les prestataires de services techniques qui vraiment se sont mis à la manœuvre pour essayer de rendre compatibles ces deux valeurs qui sont, on va dire, en termes de physique du son, pas hyper compatible, on arrive petit à petit à améliorer fortement les choses. Le 102, on arrive très très bien à le tenir. Après, c'est le 118 qui est un peu plus complexe, et notamment parce que le texte précise « en tout endroit accessible au public ». Or, avoir une homogénéisation du son partout et pouvoir le contrôler à tous les endroits où se trouve le public est vraiment un défi technique. Donc ça, vraiment, on y travaille très très fortement avec les équipes techniques, les fabricants de matériel, comme je le disais. Mais voilà, c'est un travail qui est en cours et qui s'améliore de jour en jour. Par contre, la vraie difficulté dans ce texte, c'est le fait de devoir respecter des valeurs d'émergence, c'est-à-dire que l'émergence, c'est la différence entre le niveau qu'il y a habituellement dans l'environnement, dans un environnement particulier, et la différence avec le niveau quand il y a l'activité. Et cette différence, elle ne peut pas être de plus que de 3 dB. Et ça, c'est vraiment très, très peu. Alors, pour un lieu clos, ça peut s'entendre. Un lieu clos qui va faire une programmation très, très régulière et donc peut impacter en permanence et toute l'année ses riverains, ça peut absolument s'entendre. Et il peut y avoir des solutions, même si c'est à certains endroits extrêmement compliqué, d'isolation. Par contre, pour un événement de plein air, où il n'y a ni mur ni plafond, on est sur les valeurs pratiquement identiques. Or, on se doute bien que là, tout de suite, il y a un problème. Quand on se dit que les mêmes valeurs sont à respecter pour un lieu qui n'a ni mur ni plafond, évidemment que ça pose souci. Et c'est extrêmement le cas, en fait. Hein, on ne peut pas, on n'arrive pas du tout à atteindre ces valeurs. Et bien, on en est bien loin.
Bordeaux, le festival Madame Loyale rend fou certains riverains. On a passé une nuit blanche. De nombreux habitants de la rive droite de Bordeaux ont dénoncé les nuisances sonores occasionnées par le festival Madame Loyale qui avait lieu les 14 et 15 juin au Parc des Expos. J'avais l'impression d'avoir les DJ du festival Madame Loyale dans le salon, racontait une habitante de Bassens, en Gironde, au lendemain de la première soirée du festival de musique électro organisé au Parc des Expositions à Bordeaux les 14 et 15 juin 2024. Sur les réseaux sociaux, elle n'était pas la seule à partager son mécontentement. Le maire de sa commune, Alexandre Rubio, a lui aussi réagi sur son compte personnel. Plusieurs communes seraient concernées. Nous sortons d'une nuit difficile à Bassan. Malgré nos interventions, ce sont tous les quartiers de la ville qui ont souffert d'importantes nuisances sonores jusqu'au petit matin. Les festivités se sont poursuivies sans considération pour le sommeil des voisins, de la rive droite à Bassan comme chez nos voisins, a-t-il notamment écrit. Carbon Blanc, Sainte-Eulalie, Ambarès et La Grave, des habitants d'autres communes ont eu le droit au même désagrément. Avec les basses, c'est une horreur, c'est impossible de dormir. Cette fois-ci, c'était un peu moins fort, mais la dernière fois, j'avais carrément les vitres qui tremblaient, rapporte Nicolas, domicilié à Artigues, près Bordeaux. Selon Alexandre Rubio, les nuisances sont dépendantes de l'orientation des vents et aussi de la hauteur de la Garonne. Il se passe un phénomène dont les acteurs n'ont pas toujours conscience. Les infrabasses ont tendance à traverser la Garonne et vont percuter le coteau. Et là, on se retrouve en première ligne. Je ne veux pas jouer les troubles faits. Le maire cible les basses fréquences qui font vibrer les habitations. Ce sont des sons qu'on ressent davantage que l'on entend. Je n'ai pas l'intention de jouer les troubles faits. Au contraire, c'est bien d'avoir ces moments conviviaux, mais on ne peut pas non plus empêcher les gens de dormir. Il faut trouver un point d'équilibre, plaide-t-il. C'est une honte. Je travaille toute la semaine, je me lève à 5 heures tous les jours et je ne peux même pas me reposer, enragé un de ses administrés sur les réseaux sociaux. Ma famille et moi avons passé deux nuits horribles, résumé plus sobrement Loubna. Le maire de Bassens écrit au préfet. Une nuit difficile ? On a passé une nuit blanche carrément. Les enfants et même le chien étaient réveillés, a réagi Morgan. Interpellé par des dizaines et des dizaines de personnes, Alexandre Rubio a décidé d'adresser un courrier au préfet de la Gironde ce lundi 17 juin. Il se veut à la fois constructif, de manière à apaiser l'ambiance, et fait état d'un certain nombre de propositions pour que les prochaines éditions se passent dans de meilleures conditions, dévoile-t-il à Actu Bordeaux. Parmi elles, il propose de réduire l'amplitude horaire. Au lieu de finir à 5 heures du matin, l'édile suggère une fin de soirée à minuit, voire 1 heure du matin. Ce serait plus tolérable pour les habitants, dit Alexandre Rubio. Alexandre Rubio propose de réduire le festival à un seul soir. Autre proposition, faire une soirée au lieu de deux soirs consécutifs. Mais quid de l'équilibre financier pour l'organisateur, vu toute la logistique nécessaire. Enfin, il demande à réguler les sons de basse fréquence qui sont les plus gênants. Reste à trouver la solution technique sans dénaturer le festival qui fait la part belle aux musiques amplifiées. Jointe par Actu Bordeaux, l'organisation de Madame Royale Festival regrette les nuisances et se dit prête à coopérer en ce sens sans faire davantage de commentaires. Actu Bordeaux, article de Nicolas Gosselin, publié le 17 juin 2024. Alors, il y a le ministère de l'Environnement, hein, vous le signaliez tout à l'heure, qui est associé à ce décret. Est-ce que ça veut dire que la musique devient une pollution sonore ?
Alors, il faut toujours prendre en considération le fait que quand on est soi-même en train d'écouter un concert, etc., évidemment qu'on est dans un moment de loisir et de plaisir. Par contre, la personne qui n'a pas choisi, qui est à l'extérieur de l'événement et qui n'entend finalement qu'un brouhaha, parce que bah, voilà, il n'y a pas une intelligibilité folle à partir du moment où on s'éloigne de l'événement, c'est extrêmement désagréable. Surtout qu'on n'a pas fait le choix d'être à cet endroit, on n'a pas choisi d'écouter de la musique à ce moment-là. Donc forcément, c'est une pollution. On est tous un peu riverains à certains moments, de toute façon. Hein. On peut tous être dérangés par le café du coin qui va fêter ou organiser un concert, enfin voilà, faire quelque chose. À un certain moment, si on n'a pas décidé, fait le choix d'en être, en fait. Donc oui, ça peut être une pollution sonore, effectivement. Et il faut prendre en considération, et c'est là où effectivement ce texte est sanitaire, en fait, hein, c'est que le son a un impact hein, sur nos organismes. Alors, nous, on est spécialisés dans tout ce qui est risque auditif. On n'en est pas là pour les riverains. Effectivement, on n'est pas dans un risque auditif pour les riverains, mais un risque quand même de maladie parce qu'on sait que la gêne comme ça auditive peut apporter d'autres impacts sur la santé, sur le système cardiovasculaire, sur effectivement l'empêchement de dormir et donc des conséquences voilà, qui arrivent petit à petit et ont un impact forcément sur la santé des gens. Donc voilà, c'est en ça où effectivement il faut qu'on soit conscients tous de ça et qu'on ne peut pas évidemment être dans l'organisation d'un événement festif sans prendre en considération ceux qui ne l'ont pas choisi et la gêne qu'on peut occasionner. Par contre, il faut aussi de l'autre côté prendre en considération le fait qu'un événement festif ne peut pas être totalement silencieux, ce n'est pas possible. Il va forcément y avoir un peu de gêne. Quand il s'agit d'un événement ponctuel tel qu'un festival, bon, je crois qu'on peut aussi toute raison garder, dire bon voilà, c'est 2, 3, 4 jours, ça va, dans mon année, je peux faire fi de cette gêne, tout en attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, il faut que l'événement fasse au mieux pour minimiser sa gêne. Mais voilà, le riverain doit être conscient qu'effectivement, il y aura un peu de gêne, forcément. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que cette gêne doit être fortement minimisée pour que voilà, tout le monde vive très bien les choses et qu'on soit dans un vivre ensemble acceptable.
Est-ce que vous constatez une moindre tolérance au bruit, disons post-Covid par exemple ?
Ah, totalement. Totalement, et ça c'est un effet véritablement international, mondial je dirais, puisque nous on travaille au niveau d'Agisson avec d'autres structures outre-Atlantique et voire des réseaux européens. Et on s'aperçoit que le sujet est partout, en fait. Hein. Depuis les confinements, en fait, tout à chacun, on a apprécié le silence, on a redécouvert le silence et effectivement, la reprise des activités qui, en plus, quelles qu'elles soient, hein, ont été finalement très, très fortes. On a augmenté finalement beaucoup d'activités au lieu d'être dans quelque chose de plus raisonnable, comme c'était souvent cité pendant la période Covid, du monde d'après. Les choses ont repris vraiment très fortement et plus fortement qu'avant la période Covid. Donc forcément, il y a eu un coup de ras-le-bol et surtout des riverains totalement mécontents et qui se sont bien informés de l'ensemble des réglementations autour de ça, se sont mobilisés de plus en plus sur ce sujet.
Bon, et si on retourne du côté de nos scènes de musique actuelles, donc qui font évidemment des efforts pour respecter les normes attendues, quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent ? Est-ce que voilà, comment ça se passe, par exemple, si le législateur souhaite venir faire des mesures, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils envoient quelqu'un sur place ? Comment on fait d'ailleurs pour mesurer si la scène respecte bien c'est les normes attendues ?
Alors bien sûr, il y a des agents en charge du contrôle. Hein. Il faut que ce soit évidemment des agents assermentés et formés à la maîtrise de la mesure sonore, hein, parce que on ne fait pas un constat à l'oreille juste, on ne fait pas non plus ça avec un téléphone portable, par exemple. Hein. Il faut qu'il y ait un agent avec du matériel normé. Donc généralement, ils travaillent avec des appareils de classe 1. Donc il faut une formation, hein, clairement, pour maîtriser ce type de matériel et pour savoir faire une mesure sonore. Donc ça, c'est un premier point. Mais bien sûr qu'ils ont le droit de faire des mesures, de venir contrôler. Donc ça peut... Alors déjà, dans un premier temps, généralement, ils vérifient que vous avez respecté le texte sur les pièces à fournir pour faire de la musique amplifiée. Notamment, vous devez fournir une étude d'impact des nuisances sonores. C'est une obligation. Donc ça, c'est sur pièce. Hein, donc ça peut être passible d'amende si vous ne l'avez pas fait. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, cette étude d'impact, pour certains lieux ou surtout les événements de plein air... qui sont soit pour les lieux des passoires qui n'ont pas encore eu l'occasion et la possibilité financière de faire des gros travaux pour insonoriser leur lieu, ou pour les événements de plein air qui de toute façon ne pourront jamais insonoriser leur événement, il est compliqué de mettre une enveloppe qui est quand même somme toute assez importante sur une étude d'impact des nuisances sonores, dans le sens où ils savent très bien que cette étude, sur la base de ce niveau d'émergence dont je vous parlais tout à l'heure, va conclure à la non-conformité de l'événement ou du lieu. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rédhibitoire, mais nous on a tendance à dire, écoutez, cette étude, il faut la prendre aussi comme un outil surtout, un outil d'amélioration de vos conditions, parce que c'est ce qui permet aussi de faire un constat de l'état de la gestion sonore de votre lieu et de ce que ça produit comme émergence potentielle sur l'environnement. Donc c'est aussi intéressant, parce que comme ça, à l'oreille, on ne peut pas savoir. Donc il est intéressant de savoir où on en est pour pouvoir effectivement mettre en place des actions d'amélioration, parce qu'on peut... toujours faire des actions d'amélioration. Si on ne sait pas, on ne peut pas faire le constat finalement de la quantification de ces améliorations, je ne vois pas bien l'intérêt, et puis c'est difficile à défendre. Donc il vaut mieux avoir effectivement un constat, se servir de cette étude d'impact comme d'un outil d'amélioration, que comme vraiment un outil rédhibitoire qui va de toute façon conclure de manière négative à la production de votre événement. Bon, ceci étant dit, pour les organisateurs et les lieux, ce qui est difficile aussi, c'est le fait qu'il faut absolument que ce sujet soit partagé, parce qu'ils ne sont pas dans la maîtrise de l'ensemble des paramètres, on va dire, puisque finalement, le système de sonorisation, bien souvent, n'est pas géré par eux quand il s'agit des festivals. C'est un prestataire de services techniques, souvent. Donc, ce sont des équipes extérieures au lieu. Pour un lieu, effectivement, il va avoir une installation qui va être faite aussi par un prestataire. Et donc, ils ne sont pas des experts, en fait, de l'installation du matériel. Et donc, il faut avoir des discussions fortes avec ces protagonistes-là, mais également avec son bureau d'études, potentiellement, qui va faire l'étude d'impact des nuisances sonores pour être dans une logique, justement, d'amélioration et réfléchir aux meilleures solutions. Il faut aussi être dans le dialogue avec les pouvoirs publics qui, pour la plupart du temps, quand même, ont connaissance de l'association Agissons, nous suivent, sont au courant eux-mêmes que c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre en application ce texte réglementaire. Donc, sont plutôt quand même dans un dialogue généralement et essaient de faire en sorte que les choses évoluent petit à petit. Après, si on se retrouve avec un lieu qui est complètement... fermé à la discussion, qui ne veut pas avancer, ça devient compliqué. Si on est face de la même manière à des riverains qui n'acceptent pas la médiation, qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas être dans une compréhension aussi des difficultés rencontrées par le lieu, de la même manière, c'est compliqué. Voilà, donc il y a vraiment, en fait, pour les lieux, les événements, tout cet aspect-là qui est à gérer, qui est vraiment compliqué, parce qu'il faut mettre autour de la table beaucoup de protagonistes complètement opposés dans leurs ambitions et dans leur volonté d'action. Et il faut trouver un point de convergence pour essayer de faire en sorte que les uns et les autres soient satisfaits.
Est-ce que des voisins bien intentionnés pourraient faire un contrôle inopiné des nuisances sonores d'un lieu ?
Alors, eux ne peuvent pas. Il faut qu'ils demandent à un expert acousticien de venir faire, effectivement, ils peuvent faire des mesures. Alors, pas dans le lieu, généralement, mais ils peuvent le faire à l'extérieur, parce que généralement, c'est ça qui va les gêner, c'est les émergences en extérieur. Donc, effectivement, ils peuvent s'adjoindre les compétences d'un expert acoustique pour avoir des mesures et attester de certains... dépassement ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être le constat que finalement l'événement est dans les clous et que bon, ça reste une gêne, mais qui est dans le cadre de la réglementation. Parce que ça, c'est hyper subjectif, il faut garder ça en tête aussi, hein. C'est extrêmement subjectif. J'ai en exemple le cas d'une riveraine sur une collectivité qui, parce que finalement, a très clairement dit que la programmation ne lui plaisait pas, embêtait l'événement, alors même que c'est sur des temps très très courts, que finalement les émergences ne sont pas si énormes que cela au regard de son habitation, et que voilà, elle a admis que ça aurait été une autre esthétique musicale, ça l'aurait pas dérangé. Donc voilà, il y a aussi cet aspect très subjectif du son où quand on aime, ça ne nous dérange pas, mais quand ça ne nous plaît pas, pour des raisons ou une autre d'ailleurs, voilà, on a tendance à être beaucoup plus vindicatif.
Et par curiosité, c'était quelle esthétique musicale ?
Bah là, en l'occurrence, c'était des musiques du monde, donc musique amplifiée, mais du monde. Et voilà, cette dame n'aimait pas, avait aussi tenu quelques propos racistes par la même occasion. Donc forcément, bon, on sentait bien que c'était pas juste, c'était pas une gêne vraiment sonore, que c'était une gêne de l'événement en fait, et de ce qui pouvait s'y passer, de la population que ça pouvait emmener.
Voilà, donc la pollution sonore était un prétexte commode.
Ça peut être ça, ça peut être ça, ça arrive aussi. C'est ça qui est embêtant, parce que finalement, on se retrouve parfois face à des personnes qui sont un peu de mauvaise foi, qui vont prétexter ça pour d'autres raisons. Et par ailleurs, elles ont un texte aujourd'hui qui... finalement est mal ficelé, n'est pas tenable, comme je vous l'ai expliqué, sur le principe des mésémergences. Donc on est forcément en défaut, de toute façon. Donc il faudrait quelque chose de plus raisonnable, qui soit véritablement en corrélation avec la technique actuelle et les possibilités justement techniques qui nous sont proposées, et nos connaissances de la physique du son et de l'acoustique à ce jour, pour qu'on soit effectivement dans un principe de réalité, quoi. You wanna smoke something?
Dans les Côtes d'Armor, ces riverains ont comme nouveau voisin le festival L'Armor à son. Les habitants du hameau de Linache à Trélivant, dans les Côtes d'Armor, s'apprêtent à vivre un week-end un peu particulier du 28 au 30 juin 2024. Pour la première fois, le festival L'Armor à son va se dérouler à côté de chez eux, ce qui provoque quelques inquiétudes. Mitigée, c'est l'ambiance qui règne au hameau de Linache à Trélivant, près de Dinan, dans les Côtes d'Armor, avant le week-end du 28 au 30 juin 2024, car ses habitants ont un nouveau voisin, l'Armor à son. Auparavant installé dans la commune de Bobital, le festival lance sa 14e édition sur un nouveau site, plaine du Bourrier, qu'il a acheté. Rester ou partir, à chacun sa décision. Nous allons tout fermer pour éviter toute intrusion et allons déménager le temps d'un week-end, assure de son côté Sonia. Cette mère de deux enfants avait prévu de fêter l'anniversaire de son fils. On va le fêter ailleurs. Quelques mètres plus loin, Valérie a décidé, au contraire, de rester. Nous avons hésité, mais nous aurions été stressés de laisser la maison, assure-t-elle. Les nuisances, c'est nous qui allons les avoir. J'aurais aimé la prendre avant. Quand nous l'avons su, il ne restait plus de place pour les soirées du vendredi et du samedi. Sinon, on aurait aimé en profiter et y aller, glisse Sonia, adepte du festival du temps des Terres Nevasses. Une autre résidente du hameau, qui souhaite rester anonyme, regrette le manque d'informations de la plupart des organisateurs et de la municipalité. On a su que le festival déménageait ici par la presse. Il n'y a pas eu de préconsultation, ce qui aurait pu être respectueux. Les nuisances, c'est nous qui allons les avoir. J'espère que les retombées économiques pour la commune iront d'abord vers nous. Spécialisée dans la petite enfance, elle admet qu'une partie du hameau accueille plutôt de façon positive le festival. Certains auront moins de contraintes pour s'y rendre, mais il y en a d'autres pour qui ces nuisances vont commencer dès le vendredi après-midi avec les balances, indique celle qui s'est rendue avec son mari à une réunion publique organisée par l'association Bovidel et qui a échangé quelques jours plus tard avec les coprésidents. Nous avons acheté ce terrain pour son emplacement calme et sa proximité avec les champs afin d'être enfin tranquille. Dans la logique, c'est à eux de faire avec nous et pas l'inverse. On essaye de travailler en bonne intelligence. C'est pour ça qu'on a fait des réunions publiques. On ne peut pas tout deviner dès la première année, indique Olivier Chouanière, coprésident. Avant de poursuivre, quand un événement se monte à côté d'habitations, il y a une contrainte qu'on ne peut pas nier. C'était déjà le cas à Bobital, on essaie de collaborer pour que tout se passe au mieux, pour eux comme pour nous. On travaille avec des professionnels pour respecter les normes, on n'arrive pas avec nos gros sabots. Comme tous les riverains situés sur un axe bloqué durant le festival, ceux de l'INH ont été invités pour la dernière journée du dimanche. Et l'organisation a déjà prévu un point à la rentrée pour revenir sur cette première et préparer l'avenir. Article Ouest France, juin 2024. Il y a des esthétiques musicales qui sont plus à risque, disons, de froisser les habitants.
Alors, tout ce qui est esthétique, finalement, bien chargé en basse fréquence, parce que nous, on s'est aperçu qu'en plus, dans ce texte réglementaire, malheureusement, on prend en considération des fréquences qui s'arrêtent à un certain niveau, à un certain seuil. Or, c'est en deçà de ce seuil, c'est sur les fréquences basses, donc qu'on est les plus gênants, finalement, pour l'environnement, puisque ce sont des fréquences qui vont très facilement se propager, que ce soit par la conduction solidienne, donc dans les lieux, voilà, ça passe par le béton, ça va passer par les conduits d'aération, de ventilation, etc. Et puis, en extérieur, l'air, le vent, mais aussi parfois des constructions, etc., vont être très propagatrices de ces fréquences très loin. Donc ça, c'est très ennuyeux. Donc forcément, toutes les esthétiques qui sont particulièrement chargés dans ces basses fréquences vont évidemment impacter plus facilement l'environnement. Donc là, on va penser tout de suite au reggae, au dub, à l'électro, au hip-hop, qui sont des esthétiques particulièrement friandes de ces fréquences basses. Mais pas seulement. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu un peu comme un phénomène de mode. Bon, ça passera certainement, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a une tendance encore aujourd'hui à mettre des infras dans beaucoup d'esthétiques, en fait, qui, bon, auparavant, on les utilisait pas forcément. Hein. On en trouve aujourd'hui dans le rock, on en trouve voilà, dans d'autres esthétiques qui, auparavant, ne les utilisaient pas tant que ça. Donc, c'est vrai que ça donne une forme de rondeur aussi au son, qui peut être très agréable à l'oreille, mais qui ont par contre un impact fort sur les riverains.
Donc là, ça veut dire que peut-être solliciter les artistes, leur demander si disons leur travail a vraiment besoin de ces fréquences-là, mais qui est légitime pour leur faire ces retours?
Eh bien, ça, c'est là où est toute la question. Effectivement, c'est une question qui devrait se poser. Moi, je suis prête à défendre toute production qui milite pour telle ou telle chose parce que, voilà, ça sert le propos artistique. C'est une volonté pure, voilà, qui sert le propos voulu par l'artiste. Par contre, je ne suis pas complètement persuadée que tous les artistes soient conscients, en fait, finalement, quand ils travaillent le son dans leur studio, parce que ça n'a pas du tout le même impact en fait quand on travaille en studio et quand on passe sur du live en fait. Et ça, je ne suis pas complètement persuadée que tous les artistes aient conscience, puisque bah, évidemment ils sont sur scène, ils ne sont pas dans la salle, donc ils ne sont pas forcément conscients de l'impact de leur set sur évidemment l'environnement. Et c'est là où effectivement en termes de légitimité pour leur parler de ça, moi, je prône davantage une sensibilisation, notamment nous, on essaie de travailler avec tous les dispositifs d'accompagnement des artistes, on essaie d'intégrer ces notions-là dans tout ce qui est accompagnement des groupes dans les studios de répétition. Mais bon, ça, c'est un travail de fourmi. On n'est pas, voilà, nous, on n'est pas en maîtrise, en fait. Hein, il faut que chacun ait déjà, un, les compétences pour en parler, et deux, puisse mettre en place et les moyens de mettre en place ces accompagnements pour les artistes. Donc, c'est vrai que toucher les artistes, c'est aujourd'hui assez compliqué pour nous, mais ils sont au tout début de la chaîne et il est essentiel qu'ils prennent conscience en fait que leur production peut avoir parfois des impacts forts sur les organisateurs d'événements.
Ça veut dire que le risque, c'est d'être face à des artistes qui peuvent avoir l'impression qu'on essaie de normer leur création, voire de s'ingérer dedans. Enfin de...
C'est ça. Mais et c'est là où il faut surtout pas porter ce discours-là. C'est plutôt qu'ils aient conscience en fait des conséquences, pour que derrière, dans leur création, ils aient ça en tête, mais que ça les bride pas du tout. Évidemment, il faut que, mais voilà, qu'ils aient ça en tête pour se dire à un moment donné, bon, ça, est-ce que vraiment j'en ai besoin à cet endroit? Est-ce que ça va être en termes artistiques, et c'est vraiment de ça dont j'ai envie, parce que moi, ce que je constate aussi, c'est que sur certains sets, en fait, on a un vrombissement un peu permanent d'infra en fond. Or, il faut aussi que les artistes prennent conscience que ces infras, surtout sur du live, vont écraser totalement les autres fréquences. Donc, on se retrouve dans une inintelligibilité du propos. Parfois, on ne comprend même pas ce qui est dit, en fait, et la parole, parce que ces fréquences basses et infra écrasent les autres fréquences. On ne va plus entendre la guitare, on ne va plus entendre le clavier. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça dont je crois qu'ils n'ont pas forcément conscience.
Bon, et bien si quelqu'un a des idées lumineuses pour s'adresser de façon diplomatique aux artistes, nous sommes preneurs. Mais pour en revenir aux salles, donc là, l'enjeu finalement, c'est d'essayer de garder le son à l'intérieur, si je peux dire.
C'est ça.
Voilà, d'éviter qu'il aille s'épandre sur les habitations environnantes. Donc, quelle solution existe à disposition des lieux pour ça?
Alors bon, petit à petit, effectivement, nous, à force de travail aussi, je vous dis, avec les fabricants de matériel, hein, et les prestataires de services techniques, on voit les choses évoluer. Il y a maintenant des systèmes sonores qui sont nativement, on va dire, directifs, fortement directifs, notamment sur ces fréquences basses. Donc, ça aide beaucoup quand même. Il y a la formation aussi des techniciens qui passent par ces aspects-là. Hein. De plus en plus de techniciens se forment à la directivité et donc comprennent mieux comment installer aussi leur système pour faire en sorte de ménager l'environnement. Mais voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Après, il y a des évolutions aussi hyper intéressantes aujourd'hui sur des nouveaux systèmes de multidiffusion ou surtout d'immersion sonore. On peut constater qu'effectivement, ces systèmes-là permettent quand même une finesse déjà du propos artistique. On a généralement une reproduction de l'ensemble du champ fréquentiel qui est beaucoup plus fine et du coup jolie, hein, très clairement. Par ailleurs, ça permet de jouer beaucoup moins fort. Donc à partir du moment où on joue beaucoup moins fort à l'intérieur, on a évidemment, par voie de conséquence et très logiquement, beaucoup moins d'émergence.
Est-ce que vous auriez des exemples peut-être d'aménagements qui ont pu se faire dans certaines salles ?
Alors oui, aujourd'hui, alors on n'en a pas beaucoup encore, hein, c'est vraiment quelque chose de très très nouveau, mais je sais que par exemple, on a le temps machine à jouer les tours qui s'est totalement équipé dans ce type de système de diffusion, et c'est hyper intéressant. On a aussi des structures telles que Fabsonic qui eux ont un système voilà, qui le mettent à disposition, enfin en tout cas qui louent avec eux, d'ailleurs parce que c'est une installation un peu spécifique et puis il faut derrière maîtriser la manière de gérer le son avec ce système là. Alors c'est pas si compliqué que ça, mais il faut effectivement s'y intéresser un peu. C'est pas la même manière de mixer avec les habituelles gauche droite que tout le monde maîtrise dans les équipes techniques, mais c'est un petit temps d'adaptation qui est pas énorme, hein. On l'a vu au temps machine, on en a beaucoup discuté avec les techniciens et effectivement, c'est pas extrêmement compliqué, il faut juste bien vouloir s'y mettre. Et très sincèrement, moi je trouve que ça vaut le coup parce que on a des sets totalement différents, pas radicalement, mais en tout cas beaucoup, avec beaucoup plus de finesse, comme je disais, et c'est extrêmement agréable.
Comment vous pourriez décrire justement cette sensation de son dans l'espace ? Ça donne quoi ?
Bah écoutez, vous avez la sensation vraiment de retrouver. Alors je suis un peu ancienne moi, donc j'ai connu les premiers concerts où finalement les systèmes de diffusion ne prenaient pas forcément le pas sur le groupe. Et en fait, on arrive à retrouver finalement. Le son, vraiment, il est spatialisé. On entend, par exemple, la guitare qui va être à gauche de la scène, on l'entend plus particulièrement à gauche. On va entendre la basse ou le clavier qui va être positionné à droite. On va plus l'entendre à droite. Il y a cet effet-là, comme ça, qui est hyper agréable. On se retrouve finalement plus en phase, je trouve, avec le groupe qui est sur scène.
Bon, alors la question qui tue, si d'aventure une salle souhaite s'équiper d'un tel matériel ou former ses techniciennes et techniciens ou faire une étude d'impact, est-ce qu'il existe des aides financières pour faire tout ça ?
Alors oui, bien sûr, hein, le Centre National de la Musique accompagne la filière de manière un peu forte dans tout ce qui est évolution comme ça, que ce soit de matériel ou de transition écologique, hein, donc on a des possibilités d'aide, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plutôt vers le Centre National qu'il faut se tourner. Mais il y a des aides effectivement possibles à cet endroit-là. Pour tout ce qui relève des études d'impact, des nuisances sonores pour les lieux également. Pour les festivals, c'est un petit peu plus délicat, mais je crois que la commission festival maintenant du CNM les prend en charge également. Voilà. Donc, et la formation, il y a quand même aujourd'hui pas mal de structures qui proposent de la formation. Nous, on est au niveau d'Agisson certificateur et on propose des contenus de formation. On a également des formations un peu type et de base pour déjà un peu mieux maîtriser la réglementation. Pour toutes les formations, on va dire plus techniques, là, on a beaucoup de fabricants de matériel qui en proposent. choses hein, qui permettent d'aller plus loin, ça c'est évident. Donc je pense que quand on veut se former, quand on veut faire évoluer sa technique, on peut le faire.
Et on se rend sur le site du CNM ou sur celui d'Agisson, j'imagine.
Absolument, absolument. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter.
Voilà, donc je rappelle que votre site, c'est agi-son.org. Vous êtes sur les internets, sur tous les réseaux sociaux. Et vous avez donc les sites outils educson.org et...
Here we are, exactement. Here we are, c'est une campagne qui permet, parce qu'on a dans cette réglementation sonore l'obligation d'informer, de sensibiliser son public au risque auditif. Donc nous, on offre des outils gratuits, hein, c'est sur la plateforme, il suffit de commander. la possibilité également de commander des protections, puisqu'il faut également fournir gracieusement des protections auditives à son public. Et donc, on négocie des tarifs au plus bas sur le marché pour les organisateurs et ils peuvent commander via notre site Here We Are également. Et il faut savoir que le site est également un outil en lui-même puisque vous avez un espace public qui permet de sensibiliser le public. Donc, si on veut rester sur du digital et renvoyer sur de l'information simple, claire pour son public ou s'en inspirer tout simplement, il ne faut surtout pas hésiter à s'en servir.
C'est peut-être pas très écolo les bouchons d'oreilles ici ?
Alors évidemment non, les bouchons en mousse, nous on n'est pas tellement pour évidemment, c'est une obligation réglementaire malheureusement, donc on est obligé de les proposer. Donc nous ce qu'on a développé notamment avec notre fournisseur aussi, ce sont ce qu'on appelle des bornes écolo qui permettent, donc ça fait comme des distributeurs hein, de bouchons, comme on voit les distributeurs pour les bonbons, donc c'est des distributeurs de bouchons et qui ont en dessous un collecteur, donc les gens peuvent remettre à la fin de concert leurs bouchons dans ce collecteur afin que tous ces bouchons soient revalorisés. Donc voilà, on essaie d'aller sur des choses comme ça. On propose également des bouchons standards qui là peuvent être utilisés et réutilisés, qui sont avec des filtres acoustiques, donc avec une écoute évidemment beaucoup plus confortable que les bouchons en mousse. Et ça, tous les organisateurs peuvent les commander également et les revendre, là, pour le coup, hein, c'est possible, ça, on n'est pas obligé de les donner. On peut avoir quelques bouchons en mousse à donner au cas où, mais proposer aussi quelque chose de plus qualitatif en termes d'écoute à son public et à des tarifs quand même très intéressants.
Donc là, on met aussi à contribution le public.
Tout à fait, parce qu'il faut que le public, en fait, soit conscient, et ça, c'est vraiment dans notre discours et dans notre campagne, on ne va pas être moralisateur, on aime bien dire les choses de manière claire. On est forcément dans une pratique à risque à partir du moment où on écoute de la musique à des forts volumes sonores, que ce soit d'ailleurs même avec son MP3 ou son casque sur les oreilles, on est déjà dans une zone de risque, de toute façon. Mais on vit aussi dans une société qui est de plus en plus bruyante, et finalement, notre oreille, elle ne fait pas la différence du son qu'on va voir, qui va être un plaisir le week-end, et puis de tout ce qu'on vit pendant la semaine, elle n'a pas de paupières, donc elle ne s'arrête jamais de cumuler le son, et en fait, le risque, c'est la dose de son qui se cumule, et on n'est pas tous égaux là-dessus, comme certains vont naître et vont devoir porter des lunettes très rapidement, d'autres pas. Les oreilles, c'est pareil, on n'a pas tous le même capital auditif à la naissance, il faut s'en prémunir, il faut se protéger, et là, il faut vraiment individuellement faire attention à sa pratique, à la dosimétrie de son qu'on va cumuler toute la semaine, et donc essayer d'être attentif. Généralement, de toute façon, quand vous allez sur un événement de concert et que vous sentez que ça me gêne un peu, j'ai l'impression que c'est extrêmement fort, ou voilà, c'est pas agréable, je me sens pas très très bien, c'est que là, vous êtes de toute façon dans un cumul qui fait que là, votre corps vous dit stop, en fait, et n'a plus envie. Donc là, il vaut mieux porter des protections, parce que c'est dans ces cas-là que le risque intervient et que vous pouvez avoir un traumatisme, et soit qui va potentiellement être réversible, ou pas du tout. Il faut savoir que on a un certain nombre de cellules ciliées, ces petites cellules qui vous permettent d'entendre chaque fréquence et les transmettre au cerveau. Une fois qu'elles sont brisées, ces cellules, c'est terminé, c'est définitif, on ne peut pas les réparer. C'est comme ça que vous devenez sourd, petit à petit et naturellement tout au long de votre vie. Si vous sollicitez ces cellules très fortement tout au long de votre vie et tous les jours, etc., vous allez devenir sourd encore plus jeune que normalement, en fait. Donc voilà, c'est un peu le principe, et chacun doit vraiment se responsabiliser. Et c'est en ça où, effectivement, on essaie de mettre à contribution le public, parce que ça relève quand même de la dosimétrie de chacun.
Et quel lien vous pouvez avoir, par exemple, avec des circuits de cinéma plein air, des discothèques, des bars à concerts ou encore des stades, des événements sportifs ?
Alors, ils sont exactement dans la même application que de la réglementation que nous, en fait. Donc, voilà, ils sont absolument concernés. Sur les cinémas, généralement, ils ont un respect de la réglementation, mais avec une compression tellement forte qu'effectivement, on a beaucoup de gens qui se plaignent du son dans les cinémas. Parce que d'un seul coup, on a le son qui explose, on a l'impression que le son explose, or on est sur quelque chose qui est moyenné dans le temps. Et sur la moyenne, en fait, les niveaux sonores sont respectés. Bon, ça, c'est un sujet bien particulier au cinéma. Et puis, tout ce qui est, de toute façon, parc de loisirs, bars, restaurants, etc., sont également concernés par la diffusion musicale. Donc, en ça, toutes les techniques ou toute l'information que nous, on produit, etc., peut très bien, effectivement, servir ces structures.
Eh bien, merci à vous, Angélique Duchemin. Donc, je vous rappelle que vous êtes la directrice d'Agisson. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre playlist en ce moment ?
Qu'est-ce qu'on trouve sur ma playlist en ce moment ? C'est très, très varié. J'avoue qu'en ce moment, je suis emmenée par ma fille sur le dernier album de The Weeknd, qui est une grande fan. Donc, j'ai un peu tout le temps ça à la maison.
Surprise.